Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, toujours ici à Monaco, à l'occasion de ce rendez-vous Switch, organisé par Essilor Luxottica. Et on va maintenant rentrer dans la recherche et développement d'Essilor Luxottica avec notre invité Tommaso Ongarello. Bonsoir Tommaso, merci Bonsoir. D'être là.
Merci à vous.
Vous êtes responsable du Smart Eyewear Lab chez Essilor Luxottica. Vous vivez aujourd'hui en Italie, mais vous connaissez très bien la France. Vous avez vécu et travaillé 12 ans en France.
Exactement.
D'où votre français quasi parfait.
Merci
en tous les cas d'être là. Je disais donc responsable du Smart Eyewear Lab chez Essilor Luxottica. Vous êtes en plein dans la recherche et développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier?
Oui, tout à fait. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Alors, quand on parle de recherche et développement chez Essilor Luxottica, en particulier dans le domaine des Smart Eyewear, c'est-à-dire c'est la recherche sur des technologies qu'on pense un jour pouvoir intégrer dans nos lunettes et les transformer vraiment, changer un peu le rôle de lunettes comme instrument classique pour corriger la vision dans un instrument beaucoup plus complexe qui est censé nous donner beaucoup plus d'informations et de possibilités et capacités à l'utilisateur final.
D'accord.
Du coup, dans mon laboratoire qui est basé à Milan, c'est un laboratoire avec Politecnico di Milano, la plus grande université technique italienne. Il y a une centaine de chercheurs entre Essilor Luxottica et Politecnico.
Okay.
On travaille sur différents domaines, par exemple des capteurs, des systèmes de suivi oculaire, de la réalité augmentée, afin de les valider technologiquement et comprendre après quelles sont les possibilités d'utilisation dans le futur.
Et on a l'impression que la paire de lunettes, c'est un truc génial pour apporter des nouvelles fonctionnalités, non?
Exactement.
En fait, il y a des branches, il y a tout un système, effectivement, qui recouvre le, ouais. En fait, le crâne, quoi, finalement.
Exactement. Vous avez bien dit, parce qu'effectivement, nous, on pense que c'est l'objet connecté, l'idéal, parce qu'il est placé dans la meilleure position possible de notre corps, c'est-à-dire proche de tous nos sens, de la vision, de l'audition, du nez, des oreilles. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on a la possibilité d'analyser beaucoup des signaux et du coup, offrir à nos utilisateurs beaucoup de possibilités, capacités, en fait.
Est-ce que ce que vous faites est décorrélé des Ray-Ban Meta, par exemple?
Nous, on fait de la recherche. Ray-Ban Meta, c'est un produit.
Oui, qui est un produit qui existe déjà.
Qui existe déjà. Nous, on pense au futur, en fait.
Okay.
À tout ce qu'on pourra faire dans le futur. Et en particulier, nous, on pense que la lunette va devenir la plateforme idéale comme plateforme de santé, en fait, pour l'utilisateur.
Ok, ce qui n'est pas le cas des Ray-Ban Meta, qui sont plus des lunettes connectées, mais
Exactement.
Qui n'ont pas encore de rapport avec la santé, on va dire directement.
Pour l'instant, ouais.
Donc, en fait, ce sont deux projets qui sont parallèles.
Exactement.
Et qui évoluent et qui ont leur propre histoire, en fait, c'est
correct,
ça?
Correct, exactement.
Vous êtes là-dessus, comment vous êtes tombé là-dedans, en fait, dans la recherche et développement sur les lunettes?
Ça fait
longtemps que vous travaillez sur ce sujet?
Ma formation, moi, je fais de la physique, je fais de l'optique, de la photonique. Du coup, sûrement, c'est des domaines qui sont proches, en fait, des technologies qu'on va explorer. Du coup, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'ai toujours la passion pour. Et maintenant, enfin, j'ai la possibilité de pouvoir effectivement réaliser quelque chose de concret et de réel.
Alors, on va évidemment évoquer un peu vos travaux, mais ouais. Ce qui fait plaisir, c'est que finalement, vous êtes à la pointe. Et on parle beaucoup de souveraineté en ce moment, de la volonté quand même de relocaliser tout ce qu'on fait,
ouais.
Essayer de dépendre moins des États-Unis ou de l'Asie. On voit qu'on a un vrai savoir-faire quand même dans
Exactement.
Ces domaines-là.
Oui, parce que vraiment, une de nos missions, c'est vraiment en Europe de monter des compétences. Et ces compétences, on les crée justement soit en interne, en recrutant des gens talents, comme par exemple dans les laboratoires que je dirige,
D'accord.
mais aussi avec des partenariats avec les institutions publiques de recherche. Ça, c'est très important, à
okay.
la fois en Italie, à la fois en France, parce que c'est grâce à ça qu'on peut vraiment monter en compétences internes et créer un savoir-faire, disons, européen, en fait, sur ces technologies.
Est-ce ouais. que, maintenant, vous travaillez en binôme avec la France, finalement, et
ouais.
l'Italie?
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce que la recherche italienne est meilleure sur certaines choses, la France meilleure sur certaines choses, ou pas?
C'est une bonne question. Moi, je dirais pas meilleure. Il y a peut-être des domaines différents ou des vocations différentes. Par exemple, chez Essilor Luxottica, en Italie, on se concentre beaucoup sur la technologie liée à la monture, parce que vous savez, Essilor Luxottica, c'est deux sociétés.
Oui, bien sûr, Essilor Luxottica.
Du coup, le savoir-faire de la
monture. Optique et après lunettes, on va dire, exactement. Monture.
Exactement. Et du coup, on sait de garder notre ancien savoir-faire analogique, en fait, dans les montures et les transférer aussi sur les montures du futur. Et pareil, chez Essilor, c'est la même chose côté vert, côté vision.
C'est le meilleur des deux mondes, finalement.
Exactement.
C'est-à-dire que tous les deux, ça va être
Exactement.
Ça peut être sympa.
Oui, on travaille très bien parce que les cultures sont proches en fait. On est de peuple latin, on s'entend bien, du coup, on est
avec,
très content.
Malgré tout, une concurrence qui est sévère.
Sévère. Ouais.
On parle évidemment des Ray-Ban Meta, mais on voit que il y a plein de projets qui se dessinent. Samsung a sorti ses lunettes. Apple a un projet aussi de lunettes connectées. Je ne parle pas de tous les acteurs chinois qui arrivent sur ce truc-là. Voilà, il y a une compétition
c'est
quand même.
C'est une compétition,
là.
Mais c'est aussi une opportunité de faire grandir les marchés. C'est très intéressant parce que autant qu'on est le seul acteur, ça peut poser quand même des risques ou des enjeux. Le fait qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent dans le marché, c'est quand même une possibilité de grandir tous ensemble. Donc, je pense que pour l'instant, on est bien sur ce point-là et on travaille toujours justement pour amener des nouveautés et améliorer nos produits.
Alors sur quelle piste vous travaillez ? Quelles sont à votre avis les voies les plus plausibles et probables qui risquent d'arriver dans les années qui viennent ?
Okay. Alors, les années qui viennent sont bon terme parce que effectivement la recherche c'est quelque chose qu'on voit à moyen terme. Donc les résultats de recherche c'est des choses à moyen terme. Nous par exemple,
je vous coupe, mais ça veut dire que la révolution ne va pas arriver demain.
Petit à petit.
Voilà,
c'est incrémental.
Incrémental.
Ouais, incrémental, exactement.
Un peu comme les Ray-Ban Meta finalement qui ont commencé.
Exactement, c'est
première
l'exemple
génération,
parfait. Voilà.
Deuxième génération, il y avait l'IA, le chat, et la troisième, le petit écran, etc.
Exactement, donc, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est nécessaire, parce que la technologie parfois est pas encore prête. Parce que quand on pense aux lunettes, c'est quand même un projet compliqué. Parce que premièrement, nous, on veut garder toujours la fonctionnalité d'un paire de lunettes classiques. Du coup, il doit rester léger, facile à mettre, confortable pour toute la journée.
Ouais,
et du coup, ça pose des défis technologiques.
Et le défi du poids est important.
Exactement.
Parce que dès qu'on a une paire de lunettes qui est trop lourde, on la sent.
La fameuse limite des 50 grammes. 50 grammes, c'est vraiment la limite.
C'est 50 grammes, en fait.
Oui, c'est ce qu'on cible, en fait, comme
et
système.
Et donc, dans
complet.
50 grammes, il faut mettre les batteries, les processeurs,
exactement,
les capteurs, les petites caméras, les haut-parleurs,
exactement,
les micros.
Vous comprenez les défis. Du coup, c'est un défi technologique dans le sens qu'il faut miniaturiser le plus possible tous les différents capteurs ou composants, et aussi un problème énergétique parce qu'on n'a pas l'espace pour la batterie comme on peut voir sur un smartphone de nouvelle génération.
Il y a les branches.
Oui, exactement. Mais si on veut garder un aspect quand même joli et confortable, on ne peut pas même trop.
Et oui, parce que l'équation, elle est compliquée. Il y a
exactement.
Le poids. Exactement. Il y a le design, parce que Essilor Luxottica ne peut pas s'amuser à sortir des lunettes qui soient moches.
Exactement.
Et malgré tout, il faut apporter toutes ces fonctionnalités.
Exactement. Et ça, on y arrive en optimisant chaque composant pour un cas d'usage spécifique. C'est ça la voie, en fait. On ne doit pas simplement prendre des composants qui existent déjà et les mettre dedans, parce que ça ne mènera pas au résultat qu'on veut. On doit à chaque fois se poser la question et essayer d'optimiser, à la fois au niveau composant, à la fois aussi des algorithmes d'intelligence artificielle, comment les faire fonctionner de la manière la plus efficiente possible. C'est ça ce qu'on travaille aussi dans mon laboratoire.
D'accord.
Je peux faire un exemple de le suivi oculaire.
Ouais.
Vous savez, autrement dit, eye tracking. C'est une technologie qui permet de suivre les regards de l'utilisateur.
OK.
Ça existe déjà depuis longtemps dans la recherche, même dans des casques à réalité virtuelle.
Apple?
Oui,
le
exactement.
Vision Pro a le eye tracking, d'ailleurs, qui marche très bien.
Marche très bien. Mais ce que nous, on voit comme potentiel dans les lunettes, c'est incroyable. Parce que déjà, par exemple, on pourrait lier qu'est-ce qu'on regarde au contexte où on est. Et du coup, donner beaucoup d'informations liées à ça. Mais aussi, on peut aller au-delà dans les domaines médicaux, en fait. Parce que si on mesure, par exemple, la taille de la pupille, la fréquence des clignements des yeux, les micro-mouvements oculaires, on peut analyser des paramètres qui nous donnent des informations sur notre état psychologique. Et jusqu'à aller à la détection précoce de certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer.
Simplement en étudiant le comportement de l'œil.
Exactement. Les micro-mouvements, la fréquence, tout ce genre de choses, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début, c'est vraiment la possibilité de la transformer, la lunette, en paire de montures pour la santé, en fait.
D'accord. Mais est-ce que ces lunettes-là seront compatibles à la fois pour prévenir certaines maladies, mais aussi apporter le confort de lunettes connectées comme les Ray-Ban Meta avec la possibilité de passer des appels, avoir de l'IA, faire des photos, etc. Est-ce que finalement la paire de lunettes un peu complète, c'est un mirage?
C'est pas un mirage. Il faut justement construire ce qu'on appelle building block petit à petit et les faire marcher bien ensemble. Okay. Peut-être en premier temps, il y aura des lunettes dédiées simplement à une chose, disons, mais on s'attend que la technologie avance, le futur avance,
d'accord,
pour pouvoir converger vers une plateforme la plus versatile possible.
Donc l'idée, c'est qu'on ait une paire de lunettes qui puisse activer en fait plusieurs fonctionnalités liées à la fois au confort mais aussi à la santé, c'est ça?
Exactement. Après, on peut penser de la, par exemple, segmenter par âge, par type d'utilisateur, et ça nous permettra d'être plus spécifique et du coup encore plus efficient et performant. En fait.
Ok. Mais alors, vous en êtes où? Ça avance? Comment ça se passe quand vous créez ces lunettes et ces projets en fait? Parce que vous disiez tout à l'heure, si on met simplement des processeurs ou des choses qui existent déjà, ça marchera pas. C'est-à-dire que vous êtes obligé à chaque fois de redesigner les capteurs pour les faire le plus petit possible, les processeurs. Comment?
Bah alors,
vous n'avez pas en fait la possibilité de tout faire.
Exactement.
En fait.
Il faut bien cibler qu'est-ce qu'on veut faire comme produit roadmap. C'est pour ça qu'après dans EssilorLuxottica, il y a des équipes très fortes qui travaillent sur les possibilités. Ils pensent à un nouveau produit, un nouveau besoin aussi du marché, nos besoins de clients. Et grâce à ces inputs, on est capable après de vraiment cibler effectivement la meilleure technologie pour faire qu'est-ce qu'on veut. Voilà.
Le plus compliqué, c'est quoi aujourd'hui?
Il y a beaucoup de choses compliquées.
Il y a beaucoup de choses
compliquées. Ah, je dirais par exemple, tout le monde s'attend à la réalité augmentée parce qu'on a vu beaucoup de films où on nous donne des
donc
idées.
Donc avoir en surimpression sur les verres de lunettes, exactement, de l'information qui apparaît.
Exactement.
Ça, c'est pas aisé.
C'est pas aisé pour une question. Pour l'instant, la réalité augmentée existe, mais encore une fois, ça. Dans des casques, okay, des réalités virtuelles.
Oui,
et la réalité virtuelle, c'est pas ce qu'on veut faire, non.
Parce et puis que un casque, ça pèse le Vision Pro, il pèse 500 grammes,
exactement,
600 grammes, je crois,
ça
non?
Ça chauffe, ça pèse, oui. C'est pas confortable. Et surtout.
Mais c'est pas très design.
Non, mais surtout, ça nous ferme au monde extérieur. En fait, on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement autour de nous, parce que c'est une vision complètement fermée. Par contre, la réalité augmentée dans des paires de lunettes, ça nous permet de connecter l'information virtuelle avec la vraie réalité. Donc, si je peux utiliser cette dame-là.
Est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Est-ce que aujourd'hui, il y a quand même une part de comment dirais-je d'inconnu dans tout ce que vous envisagez? Est-ce que les gens sont prêts à mettre des lunettes connectées? Est-ce qu'ils sont prêts à avoir des informations sur leur santé qui viendraient de leurs lunettes? Est-ce que les gens qui sont en face de vous, qui portez une lunette, sont prêts à être photographiés? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là finalement. Et est-ce qu'on est prêt aussi à avoir des écrans dans nos lunettes pour avoir de l'information? Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une inconnue sur le succès ou pas de ce type de produit?
En fait, la définition des cas d'usage, c'est toujours un des plus grands défis, parce que c'est un marché qui encore n'existait pas ou est en train de monter. Il faut y arriver petit à petit. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, c'est incrémentel. Ça nous permet aussi d'évaluer la réponse des utilisateurs et comprendre dans quelle direction aller. Ray-Ban Meta, comme vous avez dit, a commencé très simple avec Ray-Ban Stories, mais après a évolué. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Et du coup, à chaque fois, on rajoute une brique technologique et on voit la réponse. Et grâce à ça, on aura une vision plus complète du marché.
Très bien. Et donc, le fait d'avoir des informations comme ça en surimpression qui arriveront sur les lunettes, c'est quelque chose qui n'arrivera pas tout de suite. Alors, Meta a sorti ça.
Si, Meta a sorti ça, c'est basé sur une technologie standard, ça s'appelle des guides d'ondes,
qui
marche très bien.
Mais qui est sur qu'un écran.
Exactement.
Qui n'est pas parfaite. Hein.
Ce n'est pas parfaite. Le confort des visions n'est pas tout à fait là.
C'est
et c'est lourd, parce que ça alourdit beaucoup la monture, l'épaisseur du verre. Du coup, ça marche déjà. Mais si on vise comme quelque chose qui est utilisable pendant 8 heures, il y a encore du travail à faire.
Ça veut dire qu'à votre avis, dans les 10 ans, on ira chez l'opticien et on achètera des lunettes qui auront forcément des fonctionnalités connectées, à votre avis?
Sûrement. C'est pour ça qu'on est ici à Switch, c'est pour passer ces messages-là, que les marchés des lunettes, les métiers aussi, ça va changer, parce que
après,
ça sera plus simplement...
Après, il faut qu'il y ait une vraie transformation aussi.
Exactement.
Des canaux de vente, des boutiques, des opticiens,
exactement,
et même des ophtalmos, finalement, aussi.
Exactement. Surtout, et surtout aussi être capable de lier les données qu'on analyse et qu'on extrait, par exemple, au médecin ou quelqu'un qui est capable d'interpréter et nous donner, par exemple, une thérapie ou quelque chose.
Est-ce que vous pensez aussi que ça peut se combiner, en fait, à d'autres produits connectés? La montre connectée? Est-ce que ça peut être complémentaire ou est-ce que ça peut remplacer la montre connectée si on a une paire de lunettes par exemple?
Remplacer, c'est un terme compliqué. On peut créer un écosystème sûrement. Il y a beaucoup de objets connectés qu'on peut mettre sur nous, peut-être mieux placés.
Ouais.
par certains types d'applications. Du coup, peut-être créer un écosystème, c'est peut-être une réponse, ouais, pourquoi pas.
Et à votre avis, la miniaturisation de ces composants, c'est une course qui est très compliquée à mettre en place, parce que voilà, il faut aussi qu'on puisse physiquement aujourd'hui graver. On est dans du nanomètre. Hein,
exactement.
Finalement,
ouais.
Vous êtes assez confiant sur l'avenir. On va arriver à encore miniaturiser tout ça.
Les vrais défis, c'est de réussir à intégrer, par exemple, l'intelligence artificielle directement dans les microcontrôleurs, dans les microprocesseurs, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra avoir un système, par exemple, complètement embarqué.
Sans smartphone. Parce que c'est ça l'objectif.
Par exemple, il y a certains types de données qui sont très sensibles, hein, par exemple celui lié à notre santé. Et du coup, la possibilité de les garder le plus possible proche de l'utilisateur et de l'appareil, c'est ce qu'on veut pour éviter problèmes de sécurité,
évidemment,
de privacy et tout
évidemment,
ça.
Ouais. Évidemment. En tout cas, merci.
Merci
d'avoir
vous.
Partagé un petit peu vos travaux et votre recherche sur
plaisir.
Ce sujet qui est passionnant. Merci beaucoup, Thomas Ongarello.
Merci à vous.
Vous êtes responsable du Smart Eye Lab chez Sylor Luxottica.